Alexandre Calvez, Lagnonnais, expert des réseaux sociaux, est mon invité ce matin. Bonjour Alexandre.
Bonjour.
Alors déjà, j'ai envie de te demander comment on tombe dans les réseaux sociaux. On arrive comme ça, comment?
Bah, un peu comme tout le monde, j'ai envie de dire. En tout cas, quand on est jeune, on commence à avoir un téléphone portable et puis on télécharge ses applications pour retrouver ses amis. Et puis de fil en aiguille, on commence à regarder des vidéos et ouais. On se dit bah pourquoi pas en faire aussi puisque ça nous intéresse. Et c'est exactement ce qui s'est passé pour moi, surtout que j'avais des idées quand j'ai commencé. Donc je me suis dit pourquoi pas les faire. Et j'ai d'ailleurs donné une de mes idées à un autre vidéaste qui avait déjà commencé avant moi et il m'a dit pourquoi pas le faire avec moi. Donc c'est comme ça que j'ai commencé, j'ai été entraîné là-dedans.
Alors tu as choisi YouTube pour commencer ?
Oui, bah il n'y avait pas d'autre choix. À l'époque, c'était assez limité, c'était YouTube ou Dailymotion. Et d'accord. Pour être honnête, Dailymotion n'a jamais été au niveau, donc oui. Ouais, j'ai commencé sur YouTube.
Et alors, ta première vidéo, est-ce que tu t'en rappelles ?
Ma première vidéo, honnêtement, non. Je m'en rappelle pas, je sais que c'était sur du jeu vidéo, mais je pourrais pas dire exactement laquelle c'était.
Tu t'es spécialisé plus aujourd'hui dans la présentation
oui.
de produits ?
Les tests produits, effectivement. J'essaye de montrer aux gens la vérité derrière ce qui est présenté dans la publicité, que ce soit sur Internet ou à la télévision.
Ouais.
Donc en tant qu'amateur, pour voir ce qui nous est présenté en tant que professionnel, est-ce que ça marche aussi bien dans la réalité que ce qui nous est vendu ?
Et d'ailleurs, comment tu sélectionnes tes produits ?
C'est en fonction des retours des gens. Donc il y a beaucoup de gens qui me demandent, qui m'envoient des messages, qui me demandent est-ce que tu pourrais tester ça, je trouve ça intéressant. Mmh. Mais aussi de l'actualité, quand il y a de nouvelles sorties, des innovations que je trouve intéressantes ou au contraire inintéressantes, ça m'arrive de les présenter pour montrer ce qui ne va pas et ce qu'il faudrait changer dans ces produits.
Est-ce qu'il y a des produits que tu vas refuser ?
Y a beaucoup de produits que je refuse, ou en tout cas que je ne sélectionne pas,
ouais.
Parce que ils ne correspondent pas à ma ligne éditoriale, ou alors parce que j'ai déjà testé des choses similaires et que je trouve pas ça très intéressant. J'essaye avant tout de me focaliser sur les produits qui apportent quelque chose et qui ont un côté innovant.
Un côté innovant. Alors du coup, on va parler de ta vie d'influenceur, ce qu'on peut dire influenceur. On gagne bien sa vie en étant influenceur aujourd'hui ?
Il n'y a pas de réponse toute faite à ça, tout simplement parce qu'il y a beaucoup d'influenceurs et il y a tout autant de salaires et de niveaux de revenus différents parce que ça dépend évidemment de la notoriété
ouais.
De la constance du travail, de la qualité du travail. Moi personnellement j'en vis effectivement depuis quelques années, mais c'est pas le cas de tout le monde.
Ouais. Ce sont les marques qui payent ou c'est YouTube qui paye ou les deux ?
C'est les deux. Il y a plusieurs sources de revenus en tant que créateur de contenu. Il y a les publicités qui sont placées par YouTube avant, pendant et après les vidéos qui représentent une certaine partie du revenu, mais il y a aussi parfois des partenariats avec des marques et ça m'arrive de présenter et non pas tester des produits pour lesquels j'ai été rémunéré. Donc par exemple ça peut être un service
ouais.
et dans ce cas-là ça m'arrive de par exemple de s'il y a une marque de robot de cuisine qui me contacte et que je le trouve intéressant, ça m'arrive de le présenter et en même temps de l'utiliser pour tester une recette que j'avais prévu de tester.
C'est ça, parce que j'ai vu sur sur tes vidéos, tu fais aussi des recettes de cuisine. C'est quelque chose que tu as envie de faire de plus en plus ?
C'est vrai que il y a beaucoup de recettes sur les réseaux sociaux et donc moi j'ai aussi pris le parti de les tester, toujours dans la même logique pour voir ce qui nous est montré, si ce qui nous est montré est réalisable ou pas en tant qu'amateur et
ouais.
surtout si c'est bon parce que sur les réseaux il y a beaucoup de recettes qui sont très jolies, qui sont très agréables à regarder, qui sont bien faites, mais lorsqu'on les teste chez soi on se rend compte qu'il y a des problèmes, parfois ça ne marche pas du tout. Parfois ça fonctionne, mais c'est juste pas bon. Et ça, les gens peuvent pas le savoir quand ils regardent des vidéos parfois un peu améliorées et embellies, puisque ces créateurs ou alors ces entreprises, parce que c'est souvent des entreprises qui font ce genre de vidéos, se disent, bon, les gens vont pas reproduire la recette, donc
ouais.
on peut se permettre de faire des choses un peu loufoques, tant pis, personne saura que c'est pas bon. Donc c'est pour ça aussi que j'ai lancé ce format-là. Et oui, c'est quelque chose que j'ai envie de développer.
Est-ce qu'il y a beaucoup de dérives sur les influenceurs aujourd'hui, sur les réseaux sociaux ?
Il y en avait plus avant, ça commence à se resserrer, j'ai envie de dire, tout simplement parce que la loi est en train de passer par là, il commence à y avoir des régulateurs qui s'intéressent à ces sujets-là. La justice également, je sais qu'il y a des créateurs qui ne signalent pas leur partenariat, qui ont été condamnés il y a quelques années. Il y a eu pas mal d'histoires récemment, mais ça se professionnalise et du coup les créateurs maintenant savent bien qu'il faut qu'ils signalent lorsqu'ils font des partenariats et qu'ils soient beaucoup plus transparents. Après, il y a un certain groupe d'influenceurs connus notamment par rapport à la télé-réalité qui continuent malgré tout, mais je pense que ça ne va pas durer. J'espère en tout cas.
Ouais, donc on espère en tout cas que la loi cadre tout ça. Ta communauté te suit sur les différents réseaux. Il y a tellement de réseaux. Est-ce que c'est facile de choisir sur lesquels on va aller, quoi ?
C'est vrai que c'est pas évident. Parce que au départ, personnellement, j'étais par exemple aussi sur Twitter et Snapchat. J'ai décidé d'arrêter lorsque TikTok est arrivé parce que c'est difficile d'être créateur de contenu, ce qui est mon véritable métier. Donc créer du contenu, faire des vidéos sur toutes les plateformes. Donc j'ai fait des choix et je me suis orienté vers celles qui en proposaient réellement, c'est-à-dire TikTok, Facebook, Instagram et du coup YouTube, en proposant des formats différents et adaptés à l'audience qui me regarde, puisqu'il y a des personnes différentes à chaque fois, les publics ne sont pas forcément les mêmes en fonction des plateformes, donc il faut s'adapter, et les plateformes en elles-mêmes changent très régulièrement, il y a toujours de nouvelles fonctionnalités, de nouvelles règles, de nouvelles choses qu'ils souhaitent pousser, et elles se font de plus en plus concurrence entre elles, donc... Je me suis fixé sur quelques plateformes et j'essaye de m'y tenir, mais c'est pas évident. Il faut toujours constamment innover soi-même.
C'est ça. Toi, t'essayes aussi d'innover parce que maintenant, tu vas aider aussi les influenceurs, et notamment avec Sulico.net. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur cette application ?
Alors, c'est une application que je développe avec deux associés qui sont également des créateurs. Et on s'est dit que les créateurs avaient besoin d'aide, tout simplement parce que en tant que créateur, notre métier de base c'est de créer du contenu, mais plus le temps passe, plus on rencontre du succès, plus il y a des personnes qui nous suivent, plus on devient gestionnaire, c'est-à-dire qu'il faut s'occuper de mails, de compta, de commercialisation et tout un tas d'autres sujets, on va dire, non créatifs.
Ouais.
Qui peuvent être délégués à un agent, mais qui lui-même, du coup, va faire des tâches non commerciales, alors que, de base, son métier, c'est de représenter un talent et une personne. Du coup, nous, ce qu'on a créé, c'est Sulico, une application qui va leur permettre de gérer leur business en automatisant certaines tâches répétitives pour permettre aux créateurs, eux, de se focaliser sur la partie créative et à leurs agents, eux, de se focaliser sur la partie commerciale et de délaisser toutes ces tâches répétitives qui sont en train de ruiner notre métier.
Ouais, vraiment s'occuper du créatif. Aujourd'hui, un jeune qui te dit qu'il veut devenir influenceur plus tard et donc faire son métier, avant les enfants, quand on leur posait la question, ils voulaient être pompiers, ils voulaient être policiers. Aujourd'hui, ils veulent être influenceurs. Est-ce que c'est quelque chose qui te paraît sur la durée que ça va rester ?
Alors, quand on dit on veut être influenceur, en gros, ce n'est pas différent de dire je veux être connu, je veux être une star. Parce que influenceur, c'est quelqu'un qui est reconnu dans ce domaine, qui a une certaine influence. Donc pour moi, c'est exactement comme les enfants qui voulaient aussi être chanteurs. Il y a beaucoup de personnes qui souhaitent le devenir, mais il y a au final assez peu d'appelés. Donc moi, ce que je dis toujours, c'est vous pouvez tester, vous pouvez essayer de créer du contenu comme en tant qu'amateur, tout simplement, par passion. Et si vous voulez que ça marche, dans ce cas-là, vous pouvez essayer de vous y impliquer un peu plus. Mais il ne faut jamais se lancer dans le vide, en tout cas.
Et qu'est-ce qui a fait pour toi que ça marche ? Tu as créé ta communauté petit à petit ? Les gens t'ont suivi ?
Ouais, moi c'est vraiment petit à petit, puisque ça fait près de 10 ans que je suis dans cette activité, et Donc il y a du travail évidemment, mais il y a aussi une part de chance. J'étais là au bon moment avec les bons concepts et la place était libre pour ce type de contenu. Maintenant, c'est vrai que si on commence en 2023, c'est un peu plus compliqué puisqu'il y a déjà des choses qui ont été faites. Il y a plus de concurrence, il y a déjà beaucoup de gens qui sont installés. Et donc c'est plus dur d'être innovant et aussi à la barrière à l'entrée est plus difficile. Moi, quand j'ai commencé, c'était pas du tout professionnel. Il n'y avait pas forcément la monétisation non plus. Donc, il n'y avait pas tout ce matériel. Aujourd'hui, les plus gros créateurs de contenu, qui sont même pas, dont je me mets pas forcément dedans, ont des productions dignes de la télévision. Ouais. Ils organisent des grands prix, ils font des émissions qui coûtent des centaines de milliers d'euros. Donc, c'est difficile de rivaliser avec ça, même en tant que créateur qui a 1 million d'abonnés. Mon conseil, on va dire, pour les personnes qui veulent se lancer, c'est de privilégier l'originalité et des formats innovants, même si c'est fait avec peu de moyens.
Eh ben, merci beaucoup, en tout cas, Alexandre Calvez, d'avoir été ce matin sur Millennium.
Merci à vous.